Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, c'est le show bleu, le SmackDown du 3 juillet 2020. Et je suis avec l'indétrônable, l'inarrêtable, la nouvelle superstar de l'Internet Wrestling Community, Papy. Hello Papy, mais qu'est pas ça?
Hello Raphaël, bonjour les petits enfants, buenos dias, buenas tardes a todos.
Il y a eu un blanc.
Eh bien écoute, il y a eu un blanc, ça arrive. Ça arrive dans l'univers du catch. Mais non, on n'est pas, c'est pas le show blanc, c'est le show bleu. Hein. Il y a eu un bleu, on va dire. Voilà. C'était le temps d'annoncer le début de ce SmackDown. Donc il commence à assez fort avec Michael Cole sur le ring qui interview Matt Riddle, la nouvelle star, le nouveau petit prodige de SmackDown, la nouvelle new thing qui est montée de NXT la semaine dernière. Où il y a deux semaines maintenant.
Il y a deux ou trois semaines parce que. Ouais. Il y a eu la fois où il est monté, où il a affronté Styles, puis il y a aussi la fois où il a tabassé Corbin.
Ah oui, il y a eu l'épisode, oui, voilà, l'intermède Undertaker, t'as raison, de la semaine dernière, qui nous a un petit peu changé nos plans. Et donc, il est interviewé par Michael Cole, qui lui demande ce que ça fait. Matt Riddle, il est très content, il dit voilà, je suis à SmackDown, je suis à la WWE, je suis dans le show principal, et en plus, voilà, j'ai commencé... battre AJ Styles, me trouver soulevé et encouragé par Daniel Bryan, par Drew Gulak, par Otis, il cite un petit peu tout le monde, bro à chaque fois. Il dit putain, c'est cool quand même, mes débuts là, voilà, Matt Riddle il est cool, il trouve ça cool. Alors Michael Cole lui demande aussi la question que tout le monde se pose, mais pourquoi Matt Riddle catche-t-il pieds nus avec cet ongle là qu'il enlève en arrivant sur le ring? Eh bien, c'est pas juste une histoire de cool attitude, hein. C'est une histoire tragique. C'est une sombre histoire. Quand il était petit, quand il était jeune, Matt Riddle, il lui est arrivé une drôle d'affaire. Il était à la neige et puis en même temps dans une sorte de piscine chauffante, j'ai pas trop compris, mais en gros, il est sorti dans le froid, il est re-rentré, il est sorti dans le froid, il est re-rentré. Et puis en fait, à la fin, il sentait plus du tout ses pieds, il avait mal, il a failli être amputé même. Et depuis, bah, il supporte plus de mettre des chaussures et il a l'impression d'avoir le pied enfermé. Il nous dit qu'il ne catchera jamais en chaussures, comme ça au moins c'est clair, hein, s'il y avait des doutes. Ça faisait effectivement débat parfois dans la communauté des fans de catch. Et paraît-il que, c'est plus dangereux de catcher sans chaussures, les chaussures de l'archi, du sèche, etc. Vince McMahon n'aimerait pas trop ça. C'est vrai qu'on a fait chausser Rousseff d'ailleurs il y a quelques années, qui avait commencé pieds nus. Donc voilà, il nous dit qu'il catchera pieds nus et débarque King Corbin. King Corbin à qui, effectivement, Matt Riddle, la semaine dernière, avait mis un petit peu branlé. Mais bon, il n'était pas tout seul, hein, puisque King Corbin avait quand même humilié la carrière de l'Undertaker. Et nous, ça nous avait beaucoup choqué sur Catch Up. On vous invite à écouter l'analyse si ce n'est pas encore fait. Il avait pris un petit peu session là, de la part de tout le monde, de la part de Jeff Hardy, de la part de Matt Riddle. Qui d'autre était venu donner un petit coup là, de mémoire?
Il y avait Strowman.
Oui.
Et puis il y avait les New Day. Day.
Exact. Justement, King Corbin, il arrive en disant que c'est spécialement mal de la part de Matt Riddle parce qu'il était le dernier, je crois, dans l'enchaînement de prise de finition. Donc quand même, c'est pas beau d'avoir achevé comme ça un homme à terre. Corbin lui sort le cliché un peu classique du heel au nouveau qui monte en lui disant voilà, tout ce qui va t'arriver, sois prêt, ici c'est pas la rigolade, sois prêt à avoir un match à n'importe quel moment. Il lui dit ton histoire de l'engelure, en gros, c'est je catch pieds nus parce que quand j'étais petit j'étais un gros débile. Alors Matt Riddle il s'énerve un petit peu, il commence à enlever ses chaussures justement, enfin ses tongs, sa blouse, il dit ok, un match n'importe quand, vas-y on s'y met là, on se tape. Et King Corbin il dit non, en fait non, ça se passe pas comme ça, pas maintenant, il faut le mériter un match contre Corbin. Par contre, tu vas affronter ce monsieur-là, comme faisait notre ami Teddy Long parfois, That Man. Et là on se tourne vers le Titantron, on se demande qui arrive. Et John Morrison débarque, accompagné du Miz. Donc Matt Riddle, deuxième performance à la WWE à SmackDown, ça sera contre John Morrison. Un match plein d'enchaînements, avec un Matt Riddle qui est là pour faire étalage un petit peu de son catch, pour nous montrer un peu son talent, pas mal de grosses prises, de souplesse, qui, euh, qui trouve dans le répondant en face un Morrison toujours aussi bondissant avec des coups de pied en plein air, des prises sur les cordes. Riddle réussit à se débarrasser du Miz et de Corbin en les frappant et sur un enchaînement il réussit à couvrir Morrison en plaçant un roll-up, donc une prise un petit peu à la va-vite. Morrison se laisse avoir, d'ailleurs il est vénère en sortant du tombé, mais c'est trop tard. Victoire de Riddle qui fanfaronne à l'extérieur mais qui se fait attaquer par derrière par AJ Styles, boum, venu le taper un peu pour histoire de dire que c'est lui le patron, et qui lui-même se fait attaquer par Drew Gulak parce qu'on enchaîne juste après avec le match pour le titre intercontinental entre Gulak et AJ Styles. Mais là je vais perdre mon souffle, il y a trop de choses dans ce SmackDown qui débute, alors je vais laisser Papy nous donner son avis. Deuxième match de Matt Riddle, je sais que t'étais pas un grand fan, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as aimé cette intro? Est-ce que tu trouves Morrison en forme? Qu'est-ce que t'en dis?
Bah ouais, alors je vais te laisser reprendre ton souffle un peu en donnant mon avis. Donc moi je suis moyennement convaincu en fait toujours. Alors déjà le segment d'intro, l'histoire avec les pieds gelés, tout ça, j'ai trouvé ça naze en fait, parce que je sais pas si c'était voulu faire un peu de mélo ou je sais pas quoi, mais c'était enfin il a une diction assez qui va bien avec son personnage en fait, un peu monocorde, oui bro nanana. Je me suis fait geler les pieds, super, on s'en fout, quoi. Et donc, du coup, bah, quand le match est arrivé, j'étais déjà moyennement chauffé, quoi. Et le match... Alors, j'avais reproché à Riddle dans son premier match de ne pas être stiff. Là, j'ai trouvé que c'était mieux sur celui-là. Il y a quand même notamment quelques coups de genoux sympatoches, des coups de tatane hein, qui sont plutôt bien. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était super téléphoné. Alors, je ne sais pas si c'est le montage qui donne cette impression-là, mais... Ouais, j'ai trouvé que c'est vraiment qui prenait à chaque fois ralentissait avant de faire une action. Tu vois, autant il y avait eu, je crois que c'est la semaine dernière, la semaine d'avant, qu'il y avait un triple threat avec les Lucha House Party et Miz et Morrison, etc. Où Morrison avait vraiment bien jobé pour mettre en valeur Lince Dorado et l'autre et son compère. Et tandis que là, j'ai trouvé que ça faisait faux en fait, plus que de raison. Donc bon. C'était une question de rythme et de calage de notre ami Riddle avec le reste du roster. Mais voilà, donc je vois qu'il a essayé de faire mieux. Le match était quand même assez long. C'est vrai que j'ai pas donné la durée. La merde, c'est mon seul boulot. Là. 15 minutes 05. Ça, c'est un vrai match. Oui. Mais par contre, je me suis pas enflammé plus que ça, quoi.
Eh ouais, tu vois, ben nos avis vont diverger dès le début de ce show, prendre des routes différentes. Parce que moi, j'ai plutôt accroché et je me suis dit, tiens, je suis pas un gros fan du personnage de Riddle, mais à NXT, j'aimais pas du tout au début. Enfin, j'aimais pas le personnage et puis il m'avait quand même convaincu in-ring grâce à quelques belles perfs. Et là, je me suis dit, je trouve que la WWE commence par le bon bout, c'est-à-dire on l'installe. In-ring, quoi, le match contre AJ Styles avait été assez long et disputé, et là aussi on lui donne une bonne perf, et je suis plutôt content de Morrison toujours. Moi j'ai peut-être moins été marqué par les quelques petits, par les reproches que tu y vois. Moi j'ai plutôt accroché au match et aux enchaînements, et au côté un peu voilà, stiff, un peu Riddle qui arrive à avoir ce personnage très cool, bro, mais qui envoie quand même des gros kicks et des coups de genoux qui claquent. Et Morrison est encore bien frais pour son âge, je trouve. Ça m'a plutôt plu, moi. Ça m'a plutôt plu, ce passage d'intro. Et j'attends... J'espère qu'il va continuer comme ça, Riddle. Peut-être qu'il va affronter le Miz. Et puis Corbin, très certainement. Bon, ça, j'ai peut-être un peu moins d'espoir que ça soit extraordinaire. Quoique, on peut toujours être surpris par le King Corbin. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Ça peut arriver. Non,
puis, effectivement, il faut qu'il enchaîne les matchs, là, Riddle. Alors, je pense pas qu'il faut qu'il se retrouve face à AJ Styles ou pour une ceinture ou pour un truc vraiment trop haut. Je pense qu'il faut qu'effectivement il se prenne une petite feuille de low-card avec Corbin, peut-être Corbin et les mecs qui vont envoyer au fur et à mesure. Effectivement, pourquoi pas le Miz, pourquoi pas demain Mojo Rawley, allez vas-y, donc il se tape tous les heals en fait du bas de la carte, et ça va lui permettre de prendre le rythme à Matt Riddle, parce que avant de choper un match pour une ceinture, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus prêt.
Ouais, il faut qu'il cravache un petit peu. Tu as des bonnes remarques. Je ne sais pas ce que devient Mojo Rawley. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, tiens.
Ouais, il a perdu contre Chad Gable. Et puis comme il n'y a pas de Chad Gable, il n'y a pas Mojo Rawley. Enfin,
Ah oui, c'est vrai, tiens. Mais que devient Chad Gable alors, du coup?
Que devient-il? Bah, je pense qu'il est toujours petit. C'est...
Ah voilà. Oui, d'accord. C'est ça qui est bien avec la low-card, c'est que chaque catcher, on se demande que devient son adversaire, et de fil en aiguille, on peut remonter très loin, je pense. Mais ouais. Oui, voilà, on verra bien ce que nous réserve Matt Riddle. Moi, je trouve les débuts pour le moment plutôt positifs. Papy n'est pas de cet avis. Ben, la feute continue alors. La feute continue.
Oui, toujours.
Est-ce que le titre intercontinental va réussir à nous mettre d'accord? Donc, vous avez compris, hein, nous, on a fait une petite pause, mais ça enchaîne direct. Hein, Gula qui vient chercher AJ Styles qui venait d'attaquer Matt Riddle. Et on part sur le ring. Petite pub et hop, on nous balance la title picture. Interrompu régulièrement par Daniel Bryan qui apparaît sur Zoom puisqu'il n'est pas là. Voilà, on utilise des techniques modernes à la WWE. Des questions passionnantes qui sont posées à Daniel Bryan. Pourquoi Drogulak est ton coach? Est-ce que tu crois que Drogulak peut gagner ce soir? Etc. Ce à quoi Bryan répondra par des réponses passionnantes aussi, du style oui, je crois qu'il peut gagner. C'est mon coach parce que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Bref, on n'aurait pas pu rêver mieux. Ça, la grande époque du Talking Smack qui était là, qui flottait dans l'air, sur le ring. Moi, j'ai trouvé que ça envoyait pas mal là aussi, avec un AJ Styles quand même dominateur. J'ai bien aimé en fait, moi, là aussi, le scénario, parce que c'était pas du 50-50, comme souvent dans un match de catch où on a vraiment quelque chose de très 50-50 jusqu'aux 2-3 enchaînements finales. On a quand même un Styles au-dessus du lot. Mais avec un Gulak qui a beaucoup essayé de faire du Drew Gulak, c'est-à-dire de le tenir au sol, de faire des prises de soumission, de le coincer, de faire des torsions de bras, de jambes. Mais au final, Styles petit à petit monte en puissance. À un moment donné, dans le coin du ring, il attrape Drew Gulak, il évite une prise et il attrape Drew Gulak. Il place un Styles Clash et là, il prend bien son temps. Il nous fait une Randy Orton, il attend, il relève Drew Gulak, il lui met la tête sur les cordes. Drogulak est un petit peu KO. Drogulak s'écarte un peu des cordes en reprenant conscience. AJ Styles s'élance. Phénoménal forearm. On se dit qu'avec tout le temps qu'il a pris, il va se faire contrer. Mais non. Il allonge le coude dans la tronche. Et il remporte le match. Donc il est toujours champion intercontinental. Drogulak a fait bonne figure. Qu'en penses-tu, papy? Est-ce que toi aussi, ça t'a fait ronronner là aussi? Ou t'as préféré ce match-là?
Alors j'ai préféré ce match-là parce que effectivement ça j'ai trouvé que le rythme était bien plus maintenu, bien plus élevé, notamment comme tu dis le démarrage avec le gros spot de domination de AJ Styles, bah, ça paraît de donner un peu plus de rythme quand même à ce match qui était encore plus long finalement parce qu'il a duré 17 minutes. Donc là comme on a deux matchs d'entrée 15 minutes puis 17 minutes, 32 minutes de cage d'un coup. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc une première heure très très catchesque du côté de SmackDown. Et par contre, tu vois, nouveau bémol en fait, j'ai trouvé que c'était mal vendu le match. C'est un match pour le titre intercontinental. Et il n'y a pas avant le match la présentation de la ceinture, la présentation du champion, du challenger. C'est une page de pub, puis tu redémarres, tu es déjà dans le match en fait. Donc j'ai trouvé ça pas terrible. Et les passages avec Del Bryan, c'est pareil, ça m'a un peu sorti du match en fait. Tu vois, j'étais bien accroché et tout, puis d'un coup, t'as la petite tête de Del Bryan qui apparaît avec une question à deux balles et qui fait oui, tout à fait, c'est bien de gagner parce qu'on est bien, on est les gentils, on va battre les méchants. Super, non mais en fait, ça m'a sorti du match. Et du coup, j'étais désolé parce que en fait, ce match-là, il m'avait bien plu au démarrage. Je me dis, tiens, c'est bien, ça va bien partir. Et puis, au final, petit à petit, d'avoir la tête de Bryan qui revenait toutes les 5 minutes, ça m'a petit à petit sorti du match. Par contre, l'histoire est intéressante de dire que je pense que Style est fort pour un champion, voilà. Mais que Gulak est résistant. T'as les deux points qui, pour moi, étaient bien vendus dans ce match-là. Donc c'est comme plutôt bien quoi. C'est ouais, la prochaine fois virez-moi Bryan quoi. Faut faire des zooms de chez lui depuis ses chiottes. Merci quoi.
Et encore, c'est pas non plus le pire niveau à la fois au niveau de la voix, de la gestuelle, du physique. On aurait pu avoir bien, on a déjà eu bien pire sur ces interviews là, sur ces petites vignettes qui apparaissent. Mais moi non plus, j'ai pas trouvé ça fou. Daniel Bryan qui apparaît pour dire pas grand-chose. J'ai un peu les mêmes remarques que toi. Moi j'ai quand même bien aimé le match. C'est vrai que j'ai trouvé, alors c'était peut-être voulu, hein, puisque Styles apparaît très fort, mais j'ai trouvé qu'on ne nous a jamais laissé croire à l'inverse du résultat final. On savait tous que Gulak n'allait pas devenir champion intercontinental, mais quand même des fois dans la construction, on fait comme si ça allait être possible. Et là, ça a été un peu balancé comme ça en milieu de show, avec, comme tu dis, pas trop d'introduction. Donc, peut-être ça manquait d'emphase là-dessus, mais j'aime bien quand même le personnage de Goulak, hein, depuis plusieurs mois qu'il est là. Et je trouve qu'on garde un peu ce côté, bah, c'est un mec de 205, tout ça, donc c'est un petit gabarit, c'est pas encore tout à fait le haut niveau. Contre Brian, il a plutôt perdu, mais il a toujours réussi à faire des beaux matchs. Et je suis assez confiant pour ce mec-là dans le main roster. Sur, on va dire, le moyen terme en tout cas. Après, voilà, Styles, plutôt le résultat bénéfique et le match pour les deux, c'est ça qui m'a plutôt fait plaisir.
Ouais, non, ça travaille bien, hein, de toute façon, sur ce coup-là. Et Goulak, effectivement, il progresse petit à petit. Là, on a l'impression qu'il est un peu perdu quand il est arrivé. Au final, il s'est bien relancé, quoi, depuis son arrivée sur SmackDown.
Ouais, ça c'est une bonne montée, comme on dit, une bonne percée. Et puisque nous étions à SmackDown, nous avons eu droit au fameux passage inévitable des championnes, championne féminine tag team et puis championne de SmackDown. Depuis, bah on a passé l'année là, ça y est, hein, c'est ça pour Bayley.
Oh,
Ouais.
tu me dis, c'est vrai, c'était au. Alors, je sais que c'était au Money in the Bank, mais c'était pas à la même époque que l'an dernier, donc. Et je dirais bien ça, ouais.
Ouais, je crois que dans leur dialogue, on a passé le almost a year et on est passé à over a year. Donc je pense que ça fait, excusez ma prononciation, mais je pense qu'on est à plus d'un an. Donc justement, elles nous disent qu'elles font les, ben, elles ont un peu repris le flambeau de Charlotte. Hein, là, les filles, elles font les trois shows. Elles nous disent voilà, elles étaient à Raw. Sacha Banks a été à NXT, mais ça, elles veulent pas trop en parler. Elles sont à SmackDown, donc elles ont pas de respect. Elles disent on a une absence totale de respect alors qu'on est donc la Bayley Three Shows et Sacha Three Brands. Voilà pour rester sur cette dynamique. Mais elle se rappelle quand même ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous avez sûrement aimé l'imitation de Daniel Bryan par Papi il y a quelques minutes, qui était excellente, moi j'y ai cru. Eh bien, vous allez adorer l'imitation de l'Undertaker par Bayley, puisque Bayley a parlé de cette légende qui est partie la semaine dernière, de tout cet hommage pour la retraite. Et il dit, bah, finalement, l'Undertaker, c'est notre seul fan. Il nous a téléphoné, Bayley. Retranscrit cette conversation téléphonique, voilà, hey Bayley, etc. Elle imite l'Undertaker, pas très bien, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu plus à Bourvil, justement. Et l'Undertaker l'aurait appelé pour lui dire qu'elles sont les meilleures, les plus grandes championnes de l'histoire, qu'il les admire, qu'elles vont être championnes, qu'elles vont rester championnes, etc. Et qu'elle mériterait elle aussi un petit tribute, tout Sasha Banks et Bayley. Donc, ben, les deux filles sont très contentes de leur coup, et justement, elle lance une vidéo tribute to Sasha Banks et Bayley qui reprend la, bah, qui parodie complètement le départ de l'Undertaker. On voit toutes les deux leur fait d'armes à NXT, à SmackDown, à Raw. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est quand même assez drôle parce que chacune témoigne sur les faits de l'autre. Donc on voit Bayley qui est cataloguée championne de SmackDown, première championne historique de ci, première championne historique de là, et qui nous dit voilà, ben, elle est exceptionnelle, Sasha Banks, elle est incroyable. Et puis après, on a Sasha Banks qui est notée première femme ci, première femme là, et qui nous dit ah là là, Bayley, elle est formidable, elle est géniale, c'est la meilleure. Elles sont très contentes de leur coup, in-ring, hein, quand c'est fini, elles se congratulent, elles chantent des thank you Bayley, thank you Sasha, mais elles sont interrompues par Alexa Bliss et Nikki Cross, qui se foutent de leur gueule en faisant elles aussi une sorte de félicitations réciproques. Donc Alexa Bliss nous dit que Nikki Cross est reine d'Écosse et qu'elle est là, je sais plus, 337e ou un truc comme ça, en lice pour le titre de reine d'Angleterre. Voilà, elles se moquent un petit peu, elles viennent au milieu du ring, elles en profitent pour dire voilà, ben vous sentez à quel point vous êtes ridicule, hein. Elles étaient en train de parodier une parodie, ça va très loin. Et à ce point que Bayley se fout de leur gueule ouvertement, se met à rire, Alexa Bliss baffe Bayley, et Sasha Banks est tellement choquée qu'elle nous fait une Bayley, c'est-à-dire qu'elle dit, eh ben, Bliss, puisque c'est comme ça, Bayley, elle va t'affronter ce soir et maintenant. Donc voilà, elle book un match pour sa copine, histoire de renvoyer un peu l'ascenseur à Bayley qui lui avait fait pas mal le coup ces dernières semaines. Donc on a un Bayley versus Bliss qui est pour lui un petit peu plus court, évidemment, tu nous donneras les timings, papy, surtout avec des interventions à droite et gauche, puisqu'on a toujours Nikki Cross et Sasha Banks dehors. Ben, Nikki Cross qui va faire un petit peu le ménage à un moment donné, qui va s'attaquer à Sasha Banks, qui est provoquée oralement par Bayley et qui en finit par Nikki Cross est pas non plus un symbole, un modèle de calme et de concentration. Donc elle fout une tatane à Bayley. L'arbitre signe la disqualification. Et puis ben, on finit là-dessus, chaque duo repart un petit peu de son côté, segment qui annonce qu'on aura la semaine prochaine, si je me souviens bien, un match pour les titres tag team, si ma mémoire est bonne, entre ces deux équipes. En tout cas,
alors, un match tag team, mais je ne sais plus si les ceintures sont en jeu, tiens.
Peut-être pas en jeu encore, hein, parce qu'on a un pay-per-view à booker. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Est-ce que ce premier long segment sans catch, enfin, s'il y a eu un petit peu de catch, mais il y a eu quand même beaucoup de temps au micro, on en a beaucoup parlé de Bayley et Sasha Banks. Elles rajoutent encore un segment à leur légende. Est-ce que tu as hâte que le DVD sorte ?
Ah ouais, non, moi je suis en extase complet en regardant ce genre de segment. Donc effectivement, il y a eu un petit peu de catch, ça durait 5 minutes 35. Donc ah oui. Pas du grand. C'est le, sans surprise, ce sera le plus court match de la soirée. Mais sinon, ouais, bon, moi j'ai rien à dire sur le match. Il n'y avait rien à dire. Globalement, c'est un faux match en fait qui était juste là pour habiller un peu le segment micro. Par contre, le segment micro, bah, bizarrement, j'ai bien aimé. Moi, c'est toujours aussi nul, mais c'est toujours aussi insupportable. Donc, je trouve ça bien qu'elle continue à troller un peu tout le monde en fait. Je troll l'Undertaker. Je troll la vidéo, je me vivais des thank you Sasha, thank you Bayley, etc., etc. En plus, c'était pas, enfin ça, c'était bien compartimenté, donc ça n'a pas été trop long. Vu qu'on a eu quand même le segment micro, puis la vidéo, puis l'arrivée de Cross et Bliss, ça a permis de faire un segment long mais bien découpé, quoi. Donc ouais, bah moi je suis toujours plutôt content, même si je, enfin voilà, on arrive toujours au même point, hein, c'est que globalement. On ne sait pas quand est-ce que ça passera à vitesse supérieure dans le ring, vu que les deux meilleures catcheuses sont du même côté, sont copines comme pas possible en ce moment. Donc, patiente ou patiente.
On reste sagement, oui. Moi, je suis, on va dire, pas très optimiste, mais plutôt curieux de voir l'affrontement, de voir un peu ce que donnera Nikki Cross toute seule contre Bayley, puisque ça, pour le coup, c'est officiel, hein, c'est l'affiche du titre féminin de SmackDown à Extreme Rules. Et je veux plutôt être d'accord avec toi, le début m'a un peu saoulé, j'aime pas trop quand elle parle et qu'elle rigole fort là, avec l'imitation de l'Undertaker. Bon, je trouvais ça plutôt moyen, par contre j'ai bien aimé le package vidéo. Là j'avoue que voilà, les voir avec Bayley qui voilà, il y a marqué Bayley, superstar, championne de SmackDown, etc., qui nous parle de Sasha. Ah là là, la première à faire les Rally Nocelle, la première à faire ci, la première à faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça drôle une bonne utilisation de l'actualité, donc c'était plutôt sympa. L'apparition des deux aussi m'a fait plutôt fait rire là, quand elles se foutaient un peu de leur gueule en se donnant des titres respectifs. Nikki Cross avec son accent à couper au couteau, dont je n'avoue que je ne comprends pas tout, mais je laisse le contexte parler pour moi.
Oui.
Il y a eu pire, il y a eu largement pire dans ces segments féminins. Voilà, c'est toujours pas ce qui m'emballe le plus. Comme tu dis, c'est encore un truc qui a. Enfin, c'est-à-dire que Bayley, on dirait que ça fait plus de 6 mois qu'elle est dans des feux de transition en attendant un truc plus important. Mais va-t-on le voir un jour ? Va-t-on le voir un jour ?
Non, c'est suspense. Mais par contre, le progrès que je trouve depuis 6 mois, c'est qu'il y a 6 mois, c'est que t'avais l'impression qu'elle donnait vraiment de l'importance à ses feux de transition. Donc maintenant, elle en a rien à foutre. C'est elle qui compte avec sa copine Sasha. Puis on met à fond les projecteurs sur elle deux. Puis c'est ce qu'il faut parce que finalement, tu les vois un peu partout. Puis bah, ça fait le boulot, quoi. Pareil, ça, j'ai regardé le NXT là, tout à l'heure. Elles font le boulot, quoi. Et puis je me rends compte que Sasha est vraiment pas maladroite du tout dans le ring. Vivement qu'elle se remette. Je dis vivement qu'elle s'affronte Bayley. Hein. C'est vraiment le truc que j'espère le plus.
Ah ben sur le principe, Sasha pourrait presque dire que c'était la ouais, c'est difficile à dire, j'allais dire la plus talentueuse des four horsewomen. Oui, je pense que c'est en tout cas ce que pensait la communauté de catch de fans à une époque. C'était celle qui était aussi la plus cotée, hein. Charlotte était pas vue au début comme aussi brillante. Bayley, elle a toujours été un petit peu critiquée aussi. Becky Lynch, ça dépend. C'est difficile à analyser après coup. Elle a quand même explosé Becky Lynch, mais Sasha Banks c'était la plus attendue. Oui, d'ailleurs, c'est celle qui a le plus marqué NXT, je dirais quand même, hein, parce que.
Ah, elle a eu des règnes, ouais. Des gros matchs aussi. Je me souviens de matchs contre Bayley, contre Croc aussi à Freeway avec Becky aussi de mémoire. Ouais. Becky, c'était pas la plus talentueuse dans le ring, je pense, des quatre, mais c'est celle qui avait le plus de charisme en fait au final. Oui. Tandis que Sasha, Charlotte, c'est la plus forte, mais elle avait tendance à botcher, ce qu'elle fait un peu moins, j'ai l'impression. vrai que Sasha, c'était la, bah, c'était celle qui faisait un peu tout, quoi. En plus, c'était celle qui se jetait partout, quoi. Elle faisait des, elle prenait des bumps de folie, quoi. Donc, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle a freiné aussi à bout d'un moment, parce qu'elle a dû prendre une commotion, je pense, de mémoire.
Oui.
Donc, c'est ça qui l'a freiné un peu, mais oui, elle a fait des grands matchs. Et puis, je me souviens de la rivalité contre Charlotte dans le main roster, là, avec les Linocelles et tout et compagnie, quand elles se sont échangées les ceintures, c'était quand même très très costaud, hein, la rivalité entre les deux.
Ah oui, c'était, je pense, c'était du très bon. Elle a un gros potentiel, comme tu dis. Oui, elle avait fait quelques petites bêtises. Hein, je me souviens, il y avait eu une fois où elle s'était ratée, elle est coincée, enfin, c'était tapé les, au passage les pieds dans les cornes en faisant un suicide dive. Elle était mal retombée. Mais je crois même que de mémoire, il y avait Mick Foley qui avait, je crois que c'était Mick Foley qui avait tweeté ou autre un truc en lui disant d'arrêter de mettre sa vie en danger parce que c'était un peu risqué. Mais oui, je pense que en tout cas, c'était la meilleure de base dans les quatre au début à NXT. Après, c'est si Charlotte évidemment a quand même énormément progressé et Bayley peut-être un peu stagné, mais on a hâte de voir la vraie Sasha Banks, quoi.
Ouais, bah Bayley, elle a juste pas, enfin t'as l'impression qu'elle a pas réussi à transposer son in-ring et son personnage de NXT au main roster. Et puis bah là finalement c'est pas plus mal qu'elle ait changé de personnage du coup, parce que comme elle y arrivait vraiment pas avec son ancien truc. Peut-être que ça sera peut-être l'occasion d'enfin pour elle de démarrer et de sortir enfin une grosse performance dans le ring. Je l'attends.
Oui, parce que là, elle aura aussi affaire à une adversaire très talentueuse qui ne sera pas du même niveau que quand même Nikki Cross ou Lacey Evans ou Natalia ou Tamina. Tiens, oui, c'est vrai qu'elle est repartie déjà en retraite.
Elle est toujours assise à l'arrière du camion, là, Tamina.
Ah, pas oui, la déranger. C'est vrai, on va la laisser, hein, on va la laisser tranquille. On a quitté la division féminine définitivement pour ce soir. On fait un rapide passage par les marécages, les crocodiles, les alligators, les serpents, tout ça, tout ce qui nous attend pour le Swamp Match entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Malheureusement, pour ce match qui est quand même un main event, hein, sur l'affiche, pas de participants, on n'aura pas Bray Wyatt ce soir, on n'aura pas Braun Strowman, on les verra et on les entendra dans le clip. Clip un petit peu qui fait peur. Là, on est reparti dans la gimmick mangeur de monde, hein, Eater of Worlds. Il y a un petit doute, moi, je trouve. Je n'ai pas trop compris. J'ai cherché et les sources ne sont pas d'accord. Est-ce que ce match est vraiment bien pour le titre, en fait?
Petit doute, parce qu'effectivement, ils en parlent absolument jamais. Putain, alors là, tu me fous le doute. Je ne sais plus du tout. Est-ce que je vais avoir le temps de chercher comment ça s'appelle ce show? C'est Extreme Rules. Est-ce que j'ai le temps de le chercher sur ma tablette avant je parle? Je ne sais pas te dire. Mais en tout cas, pour te parler du segment en attendant, moi, tout ça m'a pas fait grand-chose parce que globalement, je suis hypé de son pour le match quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas forcément besoin de ce genre de segment qui fait office d'occupation. Effectivement, on n'a pas eu la présence d'aucun des deux, on n'a pas eu non plus la présence d'Otis, de la mallette. En fait, c'est toute la partie autour du main event qui n'était pas là. Et le temps que je parle, j'ai réussi à voir la stipulation qui est effectivement un Wyatt Swamp Fight pur et dur sans parler de ceinture. Donc il n'y a peut-être pas de ceinture en jeu, tu as raison.
Ouais, c'est bien ce qui m'avait semblé en fait. J'ai vu ça sur, je ne sais plus sur quel site internet qui disait qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Et là, j'ai checké sur la fiche que la WWE. Mais en avant, Braun Strowman a la ceinture quand même, il est montré champion, mais sans ceinture, ça, c'est, j'avoue que ça m'emmerde un peu parce que c'est un truc. Ils font ça que pour Bray Wyatt en fait, de donner des matchs à la fois quand il est champion, ce qui était le cas à TLC cet hiver et qu'il affrontait le Miz, mais la ceinture n'était pas en jeu, ou alors ça part mal parce que ça me rappelle le fameux. House of Horror Show où Bray Wyatt affrontait un Randy Orton champion du monde et sans la ceinture en jeu, donc ça m'embête un peu parce que déjà je trouve que ça nous spoil en grande partie. Pourquoi ne pas mettre le titre en jeu si c'est pas pour faire gagner Bray Wyatt et c'est quand même un peu bizarre comme
parce qu'il n'y aura pas de finish en fait, peut-être ils vont peut-être finir un truc vu que ça sera un truc filmé en mode montage ultra montage. Si ça se trouve, ça va se finir dans un tourbillon de je sais pas quoi sans tomber ni rien. Et donc, il n'y a peut-être même pas de tombée de prévu d'ailleurs.
Ouais.
Donc, du coup, ils ne peuvent pas désigner un champion, peut-être un vainqueur.
C'est vrai, t'as raison. T'as raison, mais on verra bien. Je sais pas. On était le House of Horror Show était très mauvais. Comment ça s'appelait? Le match avec John Cena, le Firefly Funhouse match était très bien. Donc là, on va voir de quel côté on bascule. Mais t'as l'air plutôt motivé, hein.
Oui, non, ouais, bah, de toute façon, l'idée de base de faire revenir l'ancien personnage de Bray Wyatt, c'était la bonne idée, tu vois, à sortir.
Ah
Si
oui.
tu veux, si tu veux faire une espèce de trilogie de Wyatt qui essaie de reconquérir Strowman, de le faire basculer, c'était exactement le chemin qu'il fallait prendre. Là, tu vois, je suis intéressé parce qu'en même temps, je ne sais absolument pas là où ils veulent en venir. Est-ce que Strowman va être plus fort que tout? Est-ce qu'il va... Parce que je me dis qu'il part que des bonnes solutions. Soit Strowman bascule et que Wyatt est vraiment un manipulateur hors pair. Soit Strowman s'en sort des trois personnages, et dans ce cas-là, ça leur a enfin donné le push nécessaire qui n'a pas en fait Strowman depuis qu'il est champion, parce qu'il a gagné
Ouais.
son titre contre Goldberg, et puis ensuite il a enchaîné les défenses moisies, quoi. Donc c'est. Ouais, enfin, si c'est bien fait, il peut avoir que des bonnes solutions. Donc voilà, je suis impatient de voir comment ça va se passer.
Ouais, ou même sur le match, on peut tout à fait avoir un Bray Wyatt qui règne dans son bayou, ou l'inverse, la victoire de Strowman qui justifierait ensuite le Fiend, le troisième personnage. Tout est possible et moi, je suis sur le principe, ça me fait assez kiffer ouais, de revoir les vieilles images, parce que moi j'aimais bien hein, ce Bray Wyatt-là, celui de la chaise longue, du rocking chair, du bayou, de la lampe torche. Quelque part, c'est un peu une partie de Bray Wyatt que je regrette quand même, l'entrée avec la lampe torche, le We Are Here et tout ça. Donc, nostalgie
Ouais,
quand tu le
les
tiens.
gosses avec les masques là, autour de Hell in a Cell ou un truc comme ça, là. Il y avait un truc comme
Ouais,
ça là où ils
avec John
chantaient
Cena.
un continuum. Enfin, il y avait eu de la créativité quand même.
Ah, c'était. Enfin, moi, j'en garde un souvenir au niveau public quand il chante justement dans ce fameux match contre Cena là où il le chope quand Cena est à moitié KO et qu'il se met à faire un pas de danse en chantant "You got the whole world in your hands". La foule chantait à fond. Enfin, ça marchait quoi.
Yes, ça a
Et
plus marché que les vers de terre projetés sur le ring.
ouais. Mais même le match, on l'a revu d'ailleurs pendant le confinement là quand il nous passait des matchs. On a revu le Cena contre Wyatt. Enfin le. La foule était. Enfin, Wyatt, il était. Réaction, quoi. Il créait des huées comme des gens qui étaient à fond, mais. Le public accroché. Bon, là, on peut plus trop savoir hein, les réactions du public, mais. C'est pas plus mal de le revoir faire coucou.
Yes.
Et bon, on a parlé pas mal pour un petit segment vite fait comme
Et
ça.
voilà.
Nous passons encore à du catch. Alors là, on est au niveau des ceintures tag team. Shinsuke Nakamura, avec Cesaro à côté de lui, affronte Kofi Kingston avec Biggie à côté de lui. Ça ne durera pas très longtemps puisque très vite, alors que ça intervient de droite et de gauche, que Cesaro essaye d'étrangler Kofi Kingston sur les cordes, que Biggie intervient, ben, l'arbitre exclut tous ces gens-là avec ce fameux geste spectaculaire et théâtral de hop, désigner les vestiaires, yo, hop, dehors, et hop, les gars, ils s'en vont mus par une force magique. Ça,
Rentrez chez vous!
je suis toujours passionné par le fait que le catcheur il refuse tout à fait d'être exclu. Il dit non, c'est pas bien tout ça, mais quand même, il y a une force surnaturelle qui le pousse à marcher à reculons, là, à sortir, bah, finalement à obéir. Hein. Donc, bah, ils rentrent chez eux et sur le ring, on a un match plutôt disputé là aussi avec un Nakamura assez dominateur, mais un Kofi Kingston qui résiste pas mal, qui a des moments de domination avec son coup de pied pendulaire dans les cordes. Il tente d'ailleurs le SOS, il passe le SOS qui sera seulement simplement deux, un compte de deux, un near fall. Et finalement, Nakamura réussit à s'élancer pour le Kinshasa, coup de genou et victoire. Donc le Japonais couche l'ancien champion du monde, Kofi Kingston. Il fête sa victoire avec Cesaro qui revient et il s'apprête à faire un petit peu plus de mal puisqu'il semble s'intéresser à une table et malheureusement pour nous et heureusement pour Kofi Kingston, Biggie lui aussi revient et empêche ça. Mais eh ben, est-ce qu'on va vers un tables match? Est-ce que ça te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu penses de cette feud là qui se joue vraiment sur le ring? À noter que Biggie et Kofi Kingston ont un brassard noir en hommage. Alors j'ai mangé son nom depuis, je n'ai pas noté, à Elijah machin, excusez-moi pour lui, mais un des jeunes afro-américains qui avait été tué par la police. Donc on a le New Day qui participe un petit peu à ce mouvement de Black Lives Matter. Voilà, et sinon, ben, voilà, est-ce que t'es chaud pour cette affiche? Je pense que oui. En
Alors,
table
ouais,
match, oui ou pas?
chaud pour cette affiche avec une stipulation. Ouais, pourquoi pas table match, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a du volume, quoi. Donc, ça peut faire des bonnes grosses chutes, je pense, quand ça passe à travers une table. Mais je suis hypé, mais pas par ce match, en fait. C'est pas ce match-là qui m'a hypé, tu vois.
Non.
Pourtant, alors c'était un bon match, enfin un long match, pas plus que bon. Long match parce qu'il durait quand même 11 minutes 50. J'ai l'impression que c'était plus court que ça, mais il a quand même passé ses 10 minutes. Mais bah, après, voilà, je le cache pas, je suis pas un grand fan de Nakamura. Moi, il m'a jamais passionné dans le ring.
Certes,
et du coup, bah, si ça avait été Cesaro contre Kofi ou Cesaro contre Biggie, ça, je suis impatient de les voir s'affronter l'un l'autre. Je pense que ça m'aura plus intéressé 10 minutes de matchs avec ces deux-là. Mais Nakamura, Kofi, bah, je sais pas, on l'avait peut-être déjà vu dans le passé. Ça m'a vraiment rien fait, quoi. J'ai pas senti, voilà, ça m'a pas intéressé. Pour dire les choses clairement, ça m'a pas intéressé. Et bah, j'espère vraiment que. Ouais, je suis même sûr que le match par équipe sera bien plus sympa parce que là, on a des catcheurs qui savent bien combiner et puis être inventif quoi, avec les New Day et Cesaro notamment. Voilà, sur les 4, il y en a quand même 3 qui sont bien. Donc, ça devrait aller. Mais voilà, sinon, rien de plus à dire. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché au match.
Bah, je partage plutôt ton point de vue. Hein. J'ai trouvé que c'était il manquait un petit truc là, il manquait un feu, il manquait un intérêt, il manquait un suspense. Enfin, suspense. Je n'aurais pas forcément donné Nakamura vainqueur. Hein. Le résultat victoire clean de Nakamura n'est pas forcément celui que j'aurais pronostiqué, mais en fait au final, bah, la preuve, hein, on s'en fout un peu puisque l'affiche tag team, elle était prévue. D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'elle est annoncée pour le prochain SmackDown. Hein, le match tag team est annoncé. Alors,
oui,
je sais plus si c'est pour les ceintures en jeu, peut-être pas, mais ça sera peut-être pour
là,
valider.
Là, oui, c'est pour les ceintures en jeu. C'est pour les ceintures en jeu.
D'accord. Donc, peut-être qu'on aura pour le coup un finisher un peu trouble ou quelque chose qui. Ça serait logique, vu ce qu'ils nous ont teasé, qu'on aille vers un table match ou un truc à Extreme Rules en tout cas.
Ça serait sympa, ouais. Et juste pour. Revenir sur ce match-là, en fait, et c'est là où je me rends compte, en fait, en parlant, c'est au-delà de Nakamura, c'est même Kofi, je trouve. En fait, c'est marrant, mais Kofi, depuis qu'il a plus la ceinture, j'ai plus aucun intérêt pour lui en solo. Depuis la fin de Kofi Mania, tout ça, je sais pas pourquoi. En tag team, il y a toujours aucun souci. Il a, même individuellement, il s'est catché, il y a pas de souci avec ça, mais voilà, c'est comme si c'était allé au bout de son histoire, de son personnage. Du coup, vraiment, je m'intéresse plus du tout à lui quand il catch en un contrat, en fait, Kofi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je sais qu'il pourra plus faire, pas faire plus que ce qu'il a déjà fait, mais tu vois, c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est Kofi qui m'intéresse pas et Nakamura non plus. C'est pour ça que ça m'a pas du tout accroché, quoi.
Mais ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, hein, ce sentiment. Je l'ai un peu aussi. On a un peu l'impression limite que Kofi est un retraité de la carrière solo, c'est-à-dire.
Il a le bout de ton personnage en fait.
Ouais, ouais, là il a fait.
Il a vraiment. Enfin, c'était super. Hein. Moi j'ai kiffé. Le match de WrestleMania n'était pas parfait, mais la prise de titre, moi j'ai kiffé. Quoi. J'étais vraiment content pour lui. Mais là, ouais, voilà, je vois plus aucun avenir pour lui en solo avec ce personnage. Alors après, peut-être qu'il pourrait faire d'autres trucs, mais là, comme ça, hormis au Rumble ou match à échelle, ou peut-être qu'il va faire des cascades, mais sinon, en solo, j'ai plus envie de le voir dans le ring en fait.
Ouais, bah, je pense que ça reste aussi un vétéran tout court, donc il a intérêt à finir peut-être sa carrière dans le New Day, hein, et très certainement. Par contre, oui, Big E m'intéresserait beaucoup plus en solo, et t'as raison, Cesaro aussi, évidemment, Nakamura est toujours un petit peu en roue libre, un peu feignasse, comme on l'a déjà dit. Et c'est vrai que je vais pas pronostiquer d'avance, mais c'est bizarre, Cesaro est très souvent le maillon faible aussi hein, des tag teams, et que ce soit quand il était avec Sheamus, The Bar, je pense que j'ai jamais vu la statistique, mais je pense qu'il a dû prendre tous les pins perdants. Et j'ai quelque part dans l'idée que s'il y avait un Big E Cesaro en solo, ça serait Big E qui gagnerait. Quoi. Mais bon, ça, on ne sait pas. On ne va pas pronostiquer. On verra bien ce que donne cette feud. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas trop de complications dans l'écriture. Hein. C'est du in-ring et ça marche bien là entre les deux équipes.
Yes, qui continue à se tourner autour. De toute façon, c'est deux bonnes équipes de tag team.
Voilà, et puis puisque je l'évoquais, on va parler maintenant de l'ancien partenaire tag team de Cesaro, car nous sommes au main event. Et en plus, un main event. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce segment en main event, je t'avoue, même s'il nous est teasé depuis 2 semaines. Sheamus porte un toast à Jeff Hardy, ni plus ni moins.
Et oui.
Donc, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire là derrière, on ne sait pas trop ce qu'il attend, mais voilà, on nous annonce ça. Donc, Le ring est aménagé comme le comptoir d'un bar opulent, puisqu'il y a tous les alcools possibles et imaginables sous vos yeux dans des belles bouteilles. Une petite nappe sur la table. Jeff Hardy qui débarque. Visiblement, on lui a dit « Vas-y, c'est maintenant. » Jeff Hardy, il arrive. Il y a un serveur bien nippé en livrée avec un petit costard, etc. Et Jeff Hardy, il dit « Bon, Sheamus, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Allez, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et là, Sheamus, ça arrive, mais malheureusement, il n'est pas là, Sheamus. Il est là, il est là sur Zoom ou sur Skype ou sur WhatsApp, on ne sait plus à force. C'est un WhatsAppéro en fait. Hein. C'est un hommage au confinement, toute cette séquence. Sheamus est chez lui, il a un petit verre lui aussi. Alors c'est dans une sorte de flûte, mais c'est peut-être plus de la bière que du champagne, connaissant l'Irlandais. Et il utilise la corde plus que lourde sur l'alcoolisme passé de Jeff Hardy en lui disant voilà, Jeff. T'as toujours été un échec. Mille fois, on s'est dit, ce coup-ci, Jeff Hardy va se réveiller. Ce coup-ci, Jeff Hardy va être sérieux. Ce coup-ci, etc. Mais non, à chaque fois, t'es une déception permanente, Jeff. Tu ferais mieux de boire un petit coup. Voilà, le cocktail est pour toi. Enfin, quand même très très grave. Hein. Il incite, il pousse un alcoolique à boire, ce qui est quand même socialement, éthiquement parlant, assez dangereux. Mais d'ailleurs, Jeff le dit. Il prend le micro et il dit, mais Sheamus. Quel homme es-tu pour faire des blagues sur mon alcoolisme passé? Quel homme es-tu pour faire des blagues? Alors Jeff Hardy, il reprend ce rôle qu'il a déjà eu ces dernières semaines d'étendard pour la cause de la lutte contre l'alcoolisme. Il parle au nom de toutes les personnes qui, au moment où l'on regarde, luttent contre ce fléau. Parce que voilà, l'alcoolisme, c'est une addiction, on le subit, c'est une maladie. C'est pas juste un truc rigolo de quelqu'un qui il boit beaucoup, lol. Et Sheamus, il dit non, mais moi je suis là pour t'aider, vas-y, bois un coup, bois, drink, etc. Et Jeff Hardy, il se fait tendre une petite coupelle par le serveur, qui est pas très bon d'ailleurs, qui lui tend à peu près au niveau du front, hein, la coupelle, et pas fait un bon BTS ce serveur-là. Du coup, Jeff Hardy, il prend le verre, mais il le verse sur la tête du serveur qui est profondément choqué et qui ensuite encaisse une bouteille que Jeff Hardy lui brise sur le crâne. Le pauvre serveur gît sur le ring et encaisse ensuite un Swanton Bomb. Jeff Hardy s'élance, sa prise de finition. Ensuite, sa musique retentit et il parade, il se met dans les quatre coins du ring pour saluer la foule immense qu'il a. Pendant que Sheamus regarde tout ça en ayant un air circonspect, dubitatif, circonflexe. Il dit pas grand-chose et comme le dit d'ailleurs Michael Cole, Jeff Hardy, en gros, je ne sais plus la phrase de Michael Cole, mais c'est en gros, ça ne change pas grand-chose tout ça. Jeff Hardy a toujours Sheamus face à lui comme obstacle. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aurais bien bu un petit coup? Est-ce que Jeff Hardy aurait dû boire d'après toi? Quel est ton rapport avec Jeff Hardy et avec la boisson Papy Lille?
Avec la boisson, avec les doux breuvages et... sincèrement, oui, effectivement, je pense que j'aurais dû boire un petit coup pour supporter mieux ce segment-là, en fait. Parce que, comme tu le dis, Sheamus, voilà, donc on a un segment, pas de match, on a un segment, comment dire, comédie un peu en fin de show, ouais. Mais avec un des deux qui n'est pas là, qui est chez lui, avec sa caméra vidéo, alors qui a un joli bar, Sheamus chez lui, avec plein de trucs Guinness et tout. On voit que c'est un homme de goût, mais sinon, il était chez lui. Et là, tu parlais tout à l'heure que tu ne comprenais pas tout ce que disait Nikki Cross. Là, j'ai eu du mal à comprendre en plus, parce que le son était un peu dégueu sur Sheamus. Donc, je ne comprenais pas trop ce qu'il racontait. Et puis, ça ne m'intéressait pas, parce que moi, ce que je veux, quand j'ai un segment comme ça, ce que je disais avec le Kiki ou avec d'autres segments, c'est que les deux ils soient dans le ring l'un face à l'autre, qu'il y ait un peu d'intensité là, et pas que ce soit un barman quoi qui prenne le verre sur la tronche. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout du barman? Ouais. Je sais pas, il aurait pu prendre un de ses copains, il aurait pu prendre Mojo Rawley, tiens, allez, on en reparle, mais il aurait pris Mojo Rawley, ça aurait été limite plus plaisant de le voir se prendre un truc sur la gueule, quoi, mais qu'un mec qu'on connaît pas. Alors oui, c'est le barman préféré de Sheamus, a priori, ce qu'il disait, mais je m'en fous complètement. Et c'est un mauvais main event là, c'est un mauvais choix quoi. Je ne sais pas quoi dire de plus que c'est mauvais, bad SmackDown, bad.
Bah là, je te rejoins totalement. Je vais dire, c'est la première grosse fausse note de cette feud qu'on aimait pourtant bien, avec au début une montée en puissance plutôt sympa et leur premier affrontement qui était pas mal. Hein, on l'avait analysé. Là, je trouve que on a redit exactement ce qu'on dit depuis des semaines. C'est-à-dire, Seamus se fout de la gueule de Jeff Hardy qui est alcoolique et qui est toujours un échec permanent et qui est une déception pour ses proches et sa famille. Oui, c'est bon, Seamus, c'est la quatrième semaine que tu le dis. Et Jeff Hardy bah, n'a pas d'autre réponse que, en gros, bah, voilà, c'est ma life, c'est bon, on passe à autre chose. Et oui, c'était même pas rigolo, puisque voilà, le serveur, il est pas très bon. D'ailleurs, on sent qu'il est un peu planté là, comme un piqué. Il prend son Swanton Bomb, ok. Ouais, ça stagne grandement. Et alors, je suis vraiment déçu, parce que comme toi, alors en plus, il y a eu l'imprévu départ de l'Undertaker de la semaine dernière qui a décalé en plus ce toast d'une semaine. Donc il y a eu presque une sorte d'attente en moi. Je me suis dit, bon, un toast à Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attendez, un truc plus. Alors est-ce qu'il y a eu un imprévu entre-temps? Est-ce que Sheamus finalement n'a pas pu être dispo?
Ah,
Voilà,
j'avais
ça
2 semaines
c'est.
pour l'enregistrer, hein, du coup, avec
Ouais,
l'histoire de
ouais.
l'Undertaker.
Donc ça, il fallait le faire in-ring, quoi. Mais on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire. Comme on a eu la dernière fois le segment que nous avions adoré du pipi de Jeff Hardy, il aurait fallu Sheamus qui soit là, même s'il était protégé par une armée de barman, ou que ça soit quand même les barman qui en prennent plein la tronche, parce que ça c'est pas grave, mais qu'il soit là, quoi. Parce que bon, tu portes pas un toast à quelqu'un en étant depuis ton salon. Là, il y a une faute, là. Il y a une faute, et je trouvais ça presque un peu. Bah, pas sympa pour Jeff Hardy qui porte un peu le segment en étant sur place, même si bon, c'est toujours pareil, c'est le Performance Center, il n'y a pas vraiment de public, mais bon, bah, Jeff il ne pouvait pas faire grand chose là, et on l'a un peu laissé porter le segment, parce que bah, Sheamus a beaucoup parlé, mais Sheamus n'était pas là et ça donne pas le même rendu, et c'est dommage, et je vois pas ce que ça nous. Extreme Rules étant approchant, souvent on nous tease un peu, bah, voilà, on nous a teasé une table dans l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous teaser un. Une stipule, quoi. Les mecs qui se mettent un brawl à l'extérieur du ring pour nous dire que ça va être un false count anywhere, ou ils sortent des échelles, ou des tables, ou des escaliers, ou un truc. Mais là, ça va pas être un barman match, j'imagine. J'espère pas.
Non, ce
J'espère
sera
pas.
peut-être un match où chacun est chez soi, puis il frappe dans le vide, peut-être.
Ah ouais, ça.
Un zoom match.
Ouais, c'est prometteur. D'ailleurs, j'ai remarqué que. Alors, je sais pas si c'est nouveau, je pense pas, mais j'avais pas fait gaffe. Jeff Hardy, il a un t-shirt. Où il y a marqué obsolete dans le dos, donc il garde la.
Oui, je l'ai vu.
Ouais, il garde la gimmick de son grand passage avec son frère Broken, Woken, Brother Nero et Matt Hardy. Mais on est d'accord là. Fausse note, c'est drôle de choix. Je ne sais pas si le petit barman était sûrement un jeune du Performance Center. Peut-être qu'ils l'ont même choisi en arrivant ce soir-là. Ils ont dit bon, ben, lequel veut rester dans les gradins et
Ouais.
lequel veut venir prendre un
Qui est
costard de.
propre, ouais. Non, mais enfin, mais en plus, il y a peut-être un truc avec la situation du Covid là-bas qui est comme moins rose que chez nous. Mais c'est marrant parce que entre Brian qui commentait des trucs qui n'avaient aucun rapport avec le match, parce que manifestement, les commentaires, enfin, ces interventions ont été faites en dehors du match, je pense, et ça a été rajouté ensuite. Là, Sheamus qui fait, oui, qui nous annonce depuis 2 semaines un toast et qui le fait finalement de chez lui, avec pareil, non seulement c'était loin, mais en plus c'était le contenu était pauvre, quoi. Donc, ouais, je sais pas, c'est un pauvre épisode, hein, au niveau interaction.
Ouais, à la limite. Enfin, je suis entre guillemets. J'étais au début positivement surpris de voir qu'il donnait le main event à ces deux mecs. Cool, mais bon, là, non, mauvaise idée de donner le. Finalement, mauvaise idée de leur donner le main event, quoi.
Oui, bad idea.
Bad idea. Ben voilà, c'est malheureusement sur cette mauvaise impression qu'on finit ce SmackDown, et ben, ça compte, hein, ça compte dans la notation. Et d'ailleurs, justement, papy, pour le mot de la fin, on attend tous avec impatience ton flop. Ton top, ta note et ton alcool préféré.
Ah, bon, l'alcool, il n'y a pas de souci, c'est de la bière. Je suis comme du
D'accord, d'accord.
Nord, on va quand même assurer un peu les coutumes locales.
Tout à fait.
Et voilà, donc voilà, là j'ai passé la partie la plus simple de la réponse. Au niveau du flop, j'ai plusieurs choix. Ça aurait bien été par l'absence de vente du match intercontinental, que j'ai vraiment trouvé dommage de ne pas enrober ça avec tout le patouin habituel, tout le coup team. Mais en fait, je vais faire zoom, zoom, zoom et donner mon flop au zoom, donc à Brian qui fait ses interventions par vidéo. Et pareil pour Sheamus sur Main Event, il y a eu beaucoup trop de buy-side light. Et c'était nul en plus, parce que c'était absolument pas réactif. Enfin, c'était chiant. Enfin, le système en lui-même est chiant, mais en plus, c'était mal fait là. Donc, carton rouge au zoom. Mon top. En fait, je donnerais bien à Bayley et Sacha leur segment vidéo, mais en même temps, ça m'embête de ne pas le donner à un segment de catch, parce que c'est quand même 40 minutes de catch dans plus de 40 minutes, donc c'est quand même plutôt bien quoi, dans un show de 2 heures. Mais ouais, les matchs ne m'ont vraiment pas emballé, malheureusement, donc je vais rester sur Sacha et Bayley, le segment vidéo, en fait. Et ma note, eh ben, ça va être simplement 2, parce que, comme je disais, c'est pas catastrophique non plus parce que il y a comme beaucoup de catch, donc c'est toujours appréciable dans un show de catch. Mais par contre, le main event est foiré. Les matchs de catch n'ont pas été bien vendus, je trouve. Donc du coup, ça ne mérite pas la moyenne. Donc ça sera simplement 2.
Écoute, moi je vais être un peu plus indulgent. Je vais donner la moyenne 2,5, justement parce que je salue quelque part l'effort catchés, comme tu dis, d'avoir au moins 3 gros matchs solo là. Morrison Riddle, Gulak Styles, Nakamura Kingston et puis un petit peu ailleurs. Ok, mais ça prouve aussi que c'est pas en remplissant de catch que c'est forcément bien et les matchs ont été bons sans être ouf. Donc moi mon flop il est très simple pour le coup, je le mets focus sur le main event que je te trouvais ça. Enfin voilà le pour moi le la comparaison avec le pipi moment, c'est flagrant quoi. C'est la même FUD, c'est la même histoire, c'est le même truc, c'est le même un
C'est du
peu,
liquide.
c'est la même ambiance, on peut dire. Mais alors entre un truc qui était plutôt marrant, original, plutôt déconne et bien fait, avec le médecin pervers là qui était un très bon figurant et tout, et ça. Ça régresse quoi, c'est dommage, ça régresse dans cette FUD et c'est, il va falloir se relever de tout ça, donc bon courage. Et allez, je vais quand même. Moi, j'ai bien aimé le match d'intro, donc je vais mettre mon top à Morrison et Matt Riddle pour nous avoir un petit peu envoyé du bois au début. Je trouvais que le SmackDown démarrait plutôt pas mal. 2,5. Et puis, moi, en tant que Bordelais, je vais sacrer le vin rouge comme alcool de prédilection pour une petite soirée avec Sheamus et Jeff Hardy.
Voilà, c'est bien, on fait local.
Voilà, mais pas de mélange, hein, par contre, attention, hein.
Ah non.
C'est dangereux. Et bien on finit là-dessus sur ce Friday Night SmackDown de la semaine donc enfin de la semaine du 3 juillet 2020. Il nous en reste deux, hein, c'est ça, avant Extreme Rules The Horror Show.
Je peux pas t'aider, là, je suis perdu dans les dates, je t'avouerai.
Nous, voilà, le monde du catch est un peu dans un rythme bizarre. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est, je crois que hier était malheureusement, bon, c'est triste, hein, bien sûr, la pire journée de contamination aux États-Unis. Donc, on est très très loin d'une amélioration. C'est dramatique, hein, franchement. Moi, j'avoue que nous, en France, on n'est jamais à l'abri d'une deuxième vague, évidemment, mais on a eu quand même un pic, voilà, deux mois de confinement. Ça a été long, mais. Je me souviens quand on parlait d'annuler ou pas WrestleMania, il y avait une autre option qui était évoquée, c'était de le faire fin juin. Il y avait un show prévu au Madison Square Garden, je crois, et on disait, mais c'est bien ça, fin juin, déplacer
C'est bon, ça
WrestleMania,
passe.
fin juin ça passe, et puis ben voilà, on est début juillet, et c'est très loin de passer. Et d'ailleurs, la Floride, je crois que c'est pire que tout en ce moment. Je crois qu'à part le Brésil et la Corée du Nord, c'est le troisième endroit où il ne faut pas être. Si on veut être en ville, la Floride, ouais, il y a le
Ouais,
Yémen aussi.
Floride, Texas, je crois. Enfin, c'est les États du Sud généralement qui. C'était venu par New York, et puis là maintenant c'est le Sud qui est en train de prendre vraiment cher là.
N'hésitez pas à nous écouter, à nous podcaster pendant que vous êtes à la plage, par exemple, puisque c'est les vacances. On espère que vous allez pouvoir vous balader un petit peu ou en randonnée dans la montagne. Un petit coup de ketchup dans les oreilles. PodCloud, iTunes, Spotify, une version vidéo sur YouTube. Ketchup, une version Instagram, Twitter, Facebook, Ketchup CDC, un Discord, vous pouvez venir discuter avec nous. Nous, on continue nos émissions, hein, pas de pause estivale, tant que le catch continue, Ketchup est là. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce SmackDown. On a fait une analyse On va dire courte et efficace, on va être fiers de nous, un bon travail, peut-être meilleur que celui des bookers, hein, on peut dire ça, papy, non ?
Oui, non, mais je pense qu'ils ont beaucoup de leçons à tirer de cette review.
Voilà, et au pire, si un jour ils veulent qu'on échange le boulot, hein, moi je veux bien, bien passer côté booker et puis écouter, écouter les sur catch-up, les bookers de la WWE donner leur opinion, ça, j'ai pas peur de la critique.
Exactement, mais je pense qu'on a quelques idées qu'il faudrait qu'ils leur transmettent.
Voilà, bah écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, hein, vous connaissez la loi, il paraît qu'on est tous liés à n'importe quel autre être humain sur Terre par une règle de 7 personnes en moyenne, donc voilà. Chuchotez dans l'oreille de Vince et dites-lui qu'on a des idées. En attendant, j'espère que vous avez aimé écouter cette review. Toujours dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez bien sûr, mais dites-nous surtout des retours, des avis, des questions, si vous avez plutôt aimé Matt Riddle ou pas, si vous le sentez bien ou pas, quels ont été les autres sujets de débat, si vous sentez bien le Swamp Match ou pas, si vous êtes plutôt fan de ce qu'ont fait Bayley et Sasha Banks, si vous avez aimé le Main Event.
Exactement, si vous aimez les Main Event avec du Zoom, dites-le nous.
Voilà, dites-le nous sur Zoom. Ah, on n'est pas sur Zoom encore, on va s'y mettre.
Oui, il faut parce que c'est la technologie de demain. Hein. Et alors, j'ai envie de dire, même s'il y a des gens qui aiment Nakamura, vous avez le droit de donner votre avis.
Bien sûr. Et puis peut-être que nous, un jour, on fera un Zoom avec Ringside qui portera un toast aussi parce qu'il aime bien ça, Ringside, je crois.
Ah, c'est le roi du toast.
C'est le roi du toast. Allez, papy, ce fut un grand plaisir de t'avoir à mes côtés à nouveau pour cet épisode de SmackDown. Merci de ta venue.
Ben oui, merci de m'avoir accueilli. Plaisir partagé. Et en espérant bien sûr continuer avec des shows de meilleure qualité.
Ouais, on va espérer ça. Souhaitons-nous un bon show et un été sans canicule. On verra bien ce qu'on aura.
Ah non, pas, non, il y a trop de vieux dans l'équipe. Ça serait dommage qu'il y ait une grosse canicule.
Ça serait un petit peu dommage. Mais on verra bien. En attendant, mettez de la crème solaire. Bonnes vacances pour les juilletistes. Tenez bien pour les Aoustiens. À très bientôt sur le catch-up. Et bonne semaine pleine de catch. Ciao!
Salut à tous, à bientôt.
Et une petite Guinness sur la plage. Et crème solaire indice 80 pour Seamus.